Si vous voulez vous tourner dans Romains avec moi, Romains 2, on continue notre étude et on est dans le fil de l'argumentaire de Paul qui prend du temps dans la fin du premier chapitre et du deuxième chapitre et puis le début du troisième chapitre pour expliquer que tout le monde est pécheur. Et que tout le monde vis-à-vis de Dieu est en mauvaise posture, que personne n'est justifié et que nous avons tous besoin d'aide extérieure. Alors on va lire, vous savez que j'aime bien lire des passages un peu plus larges pour qu'on ait le contexte et parce que je sais qu'on ne prend pas forcément le temps de lire ces passages par nous-mêmes dans la semaine. Donc si vous voulez, on va commencer au chapitre 1, on va se remettre vraiment dans le contexte à partir du verset 16. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra pour la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraudes et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent d'eux-mêmes. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage, et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Et le passage qu'on va étudier aujourd'hui, « Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important car tu es instruit par la loi. » Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision ? Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement ne te condamnera-t-il pas, toi, qui la transgresses tout en ayant la loi écrite et la circoncision ? Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Quel est donc l'avantage des juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision ? Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Que dire si quelques-uns n'ont pas cru ? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu ? Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur, comme cela est écrit. Ainsi, tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? Je parle ici à la manière des hommes. Certainement pas. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde ? Et si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur ? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien ? Quelques-uns, pour nous calomnier, prétendent que c'est ce que nous disons. La condamnation de ces gens est juste. Que dire donc ? Sommes-nous supérieurs aux autres ? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché, comme cela est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cet épître. Merci pour ce texte que nous avons lu, Seigneur. Aide-nous à comprendre le texte plus réduit que nous allons étudier ce matin. Merci pour ce salut que nous pouvons avoir en toi, Seigneur. que c'est gratuitement, Seigneur, que nous pouvons venir à toi, que c'est par la foi et que nous pouvons être au bénéfice de ta grâce, Seigneur. Nous pouvons faire l'expérience de ta grâce et avoir la paix qui vient après, Seigneur, quand nous savons que nous sommes réconciliés avec toi. Seigneur, aide-nous tous ce matin à recevoir ta grâce dans nos vies. Aide-nous à chacun tirer quelque chose, à entendre quelque chose de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous parles, chacun. En ton nom, nous prions. Amen. Nous avons donc lu toute la partie où Paul va explique que tous les hommes sont pécheurs, sont tous en mauvaise posture. On avait commencé avec les hommes non religieux, les hommes non juifs, païens, qui d'une certaine manière le savent et qui se soucient pas de Dieu, qui sont pécheurs et qui font de mauvaises choses et qui le savent, entre guillemets, on va dire. On a vu après les gens bien, les gens qui croient qu'ils sont moraux, intègres, qui se disent « Moi, si j'arrive devant Dieu, je vais lui dire que j'ai bien vécu, j'ai fait de bonnes choses, j'ai donné de temps en temps des choses aux pauvres, etc. etc. » C'est le dernier enseignement sur Romains. Et Paul avait expliqué que ces gens-là aussi ont un problème et ne sont pas juste devant Dieu, malgré ce qu'ils croient. Et aujourd'hui, on va regarder les Juifs. Il va parler aux Juifs parce que les Juifs se considéraient comme à part de tout ça. Ils disaient, nous, on a la loi, nous, on est choisis par Dieu, nous, on est un peuple spécial, nous, on n'est pas comme tout le reste du monde. Et comme nous, on a la carte juive, c'est bon, on est sauvés, Dieu nous accepte, et tous les autres, c'est des mauvais. Et donc, en fait, dans l'argumentaire, d'une certaine manière, c'est comme s'il dit, bon, tous ceux-là sont mauvais, et les Juifs étaient là, oui, oui, ouais, ils sont mauvais, ouais. Puis là, il dit, non, mais j'en ai pour vous aussi. Et donc, il commence au verset 17 du chapitre 2. Il dit, toi qui te donnes le nom de Juif, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. C'est la fierté du peuple juif ici qu'il décrit en grande ligne. Et c'est une description quand on prend ce passage juste comme ça, si on prend ces quelques versets, on se dit c'est quand même ils étaient pas mal. Enfin, ils sont fiers de leur Dieu, ils connaissent sa volonté, ils discernent ce qui est important, ils sont instruits par la loi, ils pensent être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants. Parce qu'il possède l'expression de la connaissance et de la vérité. Et ils avaient vraiment une grande fierté dans la loi, dans le fait qu'ils étudiaient la loi, le fait qu'ils l'avaient, quoi. Mais c'était simplement externe. C'était comme si on avait chacun, on se baladait avec une Bible magnifique, brodée, et on disait, regardez, moi j'ai la Bible, elle est là, je suis fier, je suis juste parce que j'ai une belle Bible et pas pour le reste. Alors il la lisait et tout, mais au verset 21, il les reprend et dit, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Ces versets pour les Juifs de l'époque, ça devait sans doute les choquer parce qu'ils devaient se dire « mais non, c'est pas vrai, etc. On s'enseigne, on lit la parole, on ne vole pas, on commet pas l'adultère. » Mais en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient pris la Bible et ils avaient tout interprété de manière à ce que ça colle bien à comment ils avaient envie de vivre. Ils avaient tout repris pour dire « non, c'est bon, le sabbat, je fais pas de travail, tel jour, je fais les rituels, je... » Et ils avaient fait plein de petites règles qui finalement n'étaient pas, on va dire, pas importantes. Et Jésus, lui, a eu un combat permanent avec ces docteurs de la loi en leur disant vous avez toutes ces règles que vous avez développées, toute cette manière de comprendre la loi, et vous n'avez pas compris que le problème, c'est votre cœur. Le problème, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Le problème, c'est vos motivations. Le problème, c'est vos pensées. Et il y a le passage, le sermon sur la montagne, quand Jésus enseigne. Si vous voulez, on peut s'y tourner dans Matthieu 5. On peut lire à partir de Matthieu 5, verset 19, où il leur dit « Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre ». Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Etc. Si on regarde au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère », mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Etc. Etc. Et ce qu'il fait là, Jésus, dans ce passage et dans d'autres passages, c'est il dit aux pharisiens et aux juifs, il leur dit « C'est pas juste les rites extérieurs, c'est vos pensées. Si vous dites « Celui-là, j'aimerais bien qu'il soit... l'exemple qu'on donne souvent, c'est vous et moi, si on est sur la route et qu'il y a quelqu'un qui nous coupe la route ou qui... La réaction que l'on peut avoir dans notre cœur qui est un petit peu... celui-là, il mérite quelque chose. C'est cette pensée-là. On est retenu parce qu'on sait qu'il y a des conséquences dans notre société. Il y a des punitions pour si on tue quelqu'un, donc on se retient. Mais si on était peut-être dans un coin perdu, notre colère, on laisserait peut-être sortir la vérité de ce qu'il y a dans nos cœurs. Et donc Paul ici rejoint l'idée de Jésus, évidemment, et il leur dit « Vous avez la loi, mais vous n'y obéissez pas vraiment. » Et Dieu, lui, va juger tout, pas simplement les actions, mais aussi les motivations, les pensées, les raisons qui nous poussent à nous conduire de certaines manières. Et eux, ils s'arrêtaient simplement sur l'extérieur. Ils disaient « C'est bon, nous, on a bien vécu, on n'a rien fait de mal extérieurement. » Et c'est intéressant d'ailleurs de faire une petite étude, de chercher le mot « cœur » dans les évangiles et de voir, il y a plusieurs fois où Jésus, il est dit soit qu'il voyait ce qu'il y avait dans leur cœur, ou alors il pose la question pourquoi est-ce que vous avez ces pensées dans vos cœurs? Et c'est Dieu voit nos cœurs, voit nos motivations, voit l'intérieur, et il leur dit aux Juifs, il leur dit mais vos cœurs ne sont pas au bon endroit, et ça vous pouvez le pouvez le déguiser, vous pouvez interpréter la loi comme vous voulez, mais vous êtes mauvais. Et alors il y a on peut regarder certaines choses quand il le fait de ne pas enseigner les autres, le fait de ne pas voler et de dire que tu voles, le fait d'avoir les idoles en horreur, le fait de piller les temples. On se souvient de Jésus quand il s'était énervé contre les changeurs dans le temple, le fait qu'il récupérait de l'argent des pauvres, ils exigeaient des choses de la part des pauvres pour les rites religieux. Alors ils se donnaient des apparences, mais en fait c'était de l'avarice et de l'envie et du vol d'une certaine manière, parce que Dieu leur avait donné des règles et des ordres, et eux détournaient un petit peu ces règles pour les récupérer eux-mêmes. Donc ils volaient aux pauvres, ils volaient à Dieu, ils volaient au temple, et tout ça dans une apparence de on est juste, on est bon. Ils avaient leurs robes, leurs apparences, et il faut se rappeler aussi que Paul était un pharisien. Paul était l'un des plus éminents de ces personnes qui réglaient tout ce comportement, tout cet ordre social. Et donc, s'il y a bien quelqu'un qui peut dire ces choses aux Juifs, et notamment aux dirigeants religieux juifs, c'est Paul. Il peut leur dire, je sais ce qu'il y avait dans mon cœur quand je faisais ces choses, je sais ce que vous pensez, moi aussi j'y étais, j'étais avec vous, je faisais toutes les mêmes choses que vous. On peut se tourner aussi dans Matthieu 23, si vous voulez. Il y a un passage où Jésus reprend, c'est repris aussi dans Luc 11. À partir du verset 13, il y a toute une série de condamnations aux spécialistes de la loi, où il leur dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même. » Et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer deux fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous dites si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Espèce de fou aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or? Vous dites encore si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fou aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Conducteur aveugle, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, et à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombes des justes. Et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? etc., etc. On voit les pensées de Jésus vis-à-vis de ses conducteurs aveugle, selon ses dires, et qui se trompait et qui ne faisait pas ce qu'il disait enseigner. Et Paul, d'une certaine manière, reprend simplement ces choses. Et il cite le verset 24, quand il dit « En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. » C'est une citation d'Ésaïe 52. Et Dieu qui avait voulu, il avait choisi une race pour annoncer, pour avoir une relation avec l'homme, pour amener le Messie sur la terre par une race humaine. Pierre en a parlé la dernière fois qu'il a enseigné en disant qu'il aurait pu être Corse ou autre chose, et il a choisi un peuple dans sa sagesse pour une raison qu'on ne comprend pas forcément, mais c'était son choix et il voulait, et il y a de nombreux passages dans l'Ancien Testament que tous ces pharisiens et tous ces juifs a priori connaissaient par cœur, où Dieu disait « Je veux que vous soyez une bénédiction pour les nations. Je veux que quand les nations vous regardent, ils se disent « Waouh, quel Dieu merveilleux, est-ce qu'on peut y avoir accès ?» Et la réalité, c'est que comme ils étaient tellement arrogants, tellement fiers, qu'ils avaient un comportement odieux, qu'ils regardaient les païens et ils n'acceptaient même pas d'aller dans la maison d'un non-juif. Et le produit de ça, c'était que les peuples autour, ils disaient, les juifs, moi j'ai pas envie de ce Dieu-là, il est horrible. Les gens blasphémaient Dieu parce que les juifs avaient un comportement horrible. Et on regarde les juifs ici dans ce texte, mais je pense que les juifs, peut-être dans ceux qu'on a vus dans Romains, pour l'instant, dans ces passages où il parle du péché et du fait que tous les hommes sont dans une situation compliquée, je pense que les juifs, dans cette liste, s'apparentent bien souvent le plus à certains chrétiens dans le monde, à certains chrétiens qui peut-être ne comprennent pas vraiment Dieu, qui ne comprennent pas vraiment l'Évangile, qui prennent une attitude de fierté en disant « Nous, on est les bons, nous, on est les justes, les gens qui se marient pas, les homosexuels, les musulmans, bah, ils sont mauvais. Nous, on est le peuple choisi, nous, on est les bons. » Et on doit faire attention. Est-ce que notre comportement amène les gens du monde à dire « Non, on n'a pas envie d'être de cela. » Ou est-ce que notre amour est un témoignage qui leur donne envie de connaître Dieu, de connaître Jésus. Et donc quand on regarde ce texte sur les Juifs, je pense que c'est bon de se rappeler que, bon, on peut pointer du doigt les Juifs, mais je pense que dans bien des situations, nous, en tant que chrétiens, on est en situation de danger, de tendre vers ces mêmes comportements. De dire, on a la Bible, on l'étudie le dimanche matin, on vient écouter, on la lit. Mais est-ce qu'on l'applique? Est-ce qu'on la met en pratique? Si on vient ici, qu'on l'écoute et qu'on la met pas en pratique, on est quasiment dans la même situation que les Juifs à l'époque de Jésus et à l'époque de Paul. Alors verset 25, il leur dit « Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la loi écrite et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Alors, à l'époque, de ce qu'on sait par les théologiens et les gens qui font des recherches là-dessus, les rabbins de l'époque disait que ils étaient descendants d'Abraham, la circoncision c'était une marque de cette descendance et que c'était ceux qui les sauvaient. Ils étaient sauvés parce qu'ils étaient les descendants d'Abraham. Et c'était un enseignement qui était courant à l'époque. Et Paul s'y attaque. Il dit non, c'est... Si tu es circoncis mais que tu ne fais pas ce que Dieu te demande, il y a un problème. Est-ce que si quelqu'un fait ce que Dieu lui dit de faire mais n'est pas un circoncis, est-ce qu'il n'est pas dans une meilleure posture que toi ? La réponse, c'est une question rhétorique. Oui, il est dans une meilleure position que moi si je n'obéis pas à la loi. Et donc, il dit, quelqu'un qui n'est pas circoncis mais qui fait ce que Dieu lui demande, c'est comme s'il était circoncis d'une certaine manière. Ceux qui appartiennent à Dieu, c'est ceux qui font qui obéissent à Dieu, qui le considèrent, le traitent et se comportent comme s'il était leur Dieu. Et là aussi, je pense qu'on peut le rapprocher peut-être au baptême, par exemple. Dire, il y a des gens qui disent, ah non, c'est bon, j'ai été baptisé quand j'étais gosse, c'est bon. J'ai la carte, j'ai l'autocollant baptisé, c'est bon. Et je lisais un commentateur qui disait, alors c'était l'idée, mais j'ai changé un petit peu les termes, mais c'est un petit peu comme un autocollant. Si vous avez un bocal avec de la confiture et que vous mettez un autocollant terrine de canard dessus, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez sur l'autocollant, il y a de la confiture dedans. On a beau mettre un autocollant, un gros panneau juif, si ce qui est dedans c'est pas le juif comme Dieu le souhaitait, alors ça va pas changer la nature. C'est le souci de l'homme vis-à-vis de Dieu, et c'est pour ça que l'évangile est une tellement bonne nouvelle, parce que nous on peut pas changer ce qu'il y a dedans. Et Paul va développer son argumentaire et ce raisonnement et va venir au point de dire, mais en fait, on a besoin de Dieu, mais gloire à Dieu, parce que quand on accepte Jésus, il change ce qu'il y a en nous. Et il peut transformer ce mauvais cœur, cette mauvaise nature en nous, en une créature nouvelle. C'est ça qui change le contenu. C'est pas l'autocollant que vous avez, baptisé ou chrétien qui va à l'église le dimanche ou autre chose. Ce qui change le contenu et vous réconcilie, vous restaure dans votre relation avec Dieu, c'est la nouvelle naissance qui vient par la foi en Jésus-Christ. Alors c'est cette idée vraiment de l'apparence. On a toujours du mal, nous on voit l'extérieur, on voit le comportement, on est humain et on a du mal, mais la Bible nous dit, vous ne vous y trompez pas, Dieu lui voit tout l'intérieur, comme ces passages où il leur disait je vois les motivations de vos cœurs, pourquoi est-ce que vos cœurs sont comme ça. Dieu voit nos cœurs, Dieu sait ce qu'il y a en nous. On a étudié dans Hébreux les versets, alors dans Hébreux 4, il y a les versets 12 et 13 qui disent, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Souvent, on apprend ce verset-là et on s'arrête à ça. Et le verset 13, en fait, il dit « Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Et donc, c'est pas juste que la parole de Dieu est une belle chose qui agit dans nos vies, mais c'est aussi une sorte d'avertissement de dire « Mais la parole de Dieu, elle révèle des choses en nous, et si elle révèle des mauvaises choses, alors nous avons un problème, parce que toutes ces choses qui sont en nous, Dieu les voit. Et c'est à lui que nous devons rendre des comptes. C'est lui qui va nous juger à la fin. Dans Luc 16, verset 14, Jésus disait, en entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Et Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. Alors cette idée de paraître juste devant les hommes ou devant Dieu, je réfléchissais aussi à la question, et pour les Juifs, c'était un petit peu, je pense, une partie de leur problème, et c'est un danger, je pense, aussi pour nous. Mais c'est, je vais dire que c'est le fait que nous classons les péchés. Nous aimons bien toujours nous comparer aux autres. En tant qu'être humain, on est des machines à se comparer. Vous prenez un bébé, dès qu'il commence à parler, il va dire un tel, j'ai un meilleur jouet, on se compare sans cesse. Quand on rencontre quelqu'un, inconsciemment, on peut dire, lui, il doit gagner plus que moi, lui, il est plus en forme que moi, lui, il est plus beau que moi, lui, il est... Et on est tout le temps en train de se comparer. Je pense que ça fait partie de notre nature pécheresse, et depuis la chute, nous mesurons toujours, au lieu de trouver notre sens de valeur dans notre relation avec Dieu, dire, j'ai de la valeur parce que j'ai une relation avec Dieu et qu'il m'aime, point, j'ai pas besoin de me comparer. Comme on a eu une rupture de cette relation, on est toujours en train d'essayer de chercher notre valeur avec les gens autour de nous. Et alors on va regarder après, mais pour mieux nous sentir, on se compare aux autres. On va dire d'accord, j'ai du péché, mais eux ils en ont quand même plus. Et je pense que c'était une partie avec les Juifs, ils pouvaient peut-être accepter, dire bon oui, il y a peut-être certaines choses qui vont pas, mais nous on a quand même la loi, on a quand même, on donne quand même, on va au temple, on est quand même bien, on n'est pas là à faire n'importe quoi comme les païens autour de nous, des choses horribles. Et nous en tant que chrétiens, je pense que c'est aussi un danger. Pour vous donner quelques questions. Pour essayer de révéler ces choses. Si je vous demande, qui est pire, Hitler ou Macron? Qui est pire, Trump ou Obama? Qui est pire, Staline ou Mère Teresa? Qui est pire, quelqu'un qui est en prison ou le boulanger au coin? Qui est pire, un terroriste ou moi? Est-ce que vous avez mis plus de 2 secondes à vous faire une idée dans vos têtes de celui qui était pire? Vous avez le classement, il est fait, c'est bon, ça passe, ça prend, on est des machines à comparer, c'est du tac au tac. Et c'est révélateur parce que nous croyons de manière fausse que certains péchés sont plus graves que d'autres vis-à-vis de Dieu. Il y a peut-être des conséquences différentes dans la vie des gens, dans les conséquences, mais la Bible nous dit, si vous péchez, vous ne pouvez pas être accepté par Dieu. C'est-à-dire, si vous tuez 10 millions de personnes, vous ne pouvez pas être accepté par Dieu sans être pardonné. Mais si vous mentez une seule fois dans votre vie, vis-à-vis de Dieu, vous êtes dans la même situation de banqueroute spirituelle. Et c'est dur à accepter pour nous, parce que ça va à l'encontre de notre nature. On peut faire le même exercice, et ça aussi c'est très révélateur. Est-ce que vous pensez qu'il y a dans les 10 commandements, est-ce qu'il y en a qui sont plus graves que d'autres? Si je vous lis les commandements dans Exode 20, à partir du verset 2, si vous voulez, vous pouvez vous y tourner, on peut le regarder vite fait. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Si je vous demande qu'est-ce qui est pire, tu ne tueras point ou tu ne convoiteras point. Vous allez tous me dire, il ne faut pas tuer. C'est plus grave que de convoiter. Et en fait, pour Dieu, non. Et c'est un exercice qui, pour moi en tout cas, peut-être pas pour vous, vous êtes peut-être dans une meilleure posture, mais c'est tellement dur, ça me fait mal d'y réfléchir à chez soi. Vraiment, de me dire, prenez des choses abominables et vous dites, est-ce que c'est pire quand si je mens à quelqu'un ou j'ai pas besoin de vous donner d'exemple pour vous donner des choses, des atrocités, et vous allez dire c'est pire. Et en fait, alors je vous ai dit, il y a des conséquences différentes dans ce monde, etc. Mais vis-à-vis de Dieu, ça nous met tous dans la même position. Dieu dit, et pourquoi ? Parce que le péché, c'est pas un péché. Le péché, c'est le fait de ne pas obéir à Dieu. C'est ça le péché. C'est pas un péché qui est dans un classement. C'est est-ce que j'écoute et j'obéis complètement à Dieu ou pas ? Et si j'obéis pas complètement à Dieu, alors je suis dans le péché. Alors c'est des idées qui vont revenir dans le texte de Romains. On a vu qu'on peut rapidement juger les autres au début du chapitre 2, le fait qu'on regarde les autres et on juge, et en fait on est coupable des mêmes choses d'une manière ou d'une autre. Et le texte ici, j'ai presque l'impression par moment que Paul me piège en me disant, mais bon, si vous respectez la loi, dans Romains là, dans le chapitre 2, quand on regarde au début, au verset 6, il dit « Il traitera chacun conformément à ses actes, à ceux qui par leur persévérance à faire le bien recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui par esprit de révolte rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. » Et quand je lis un verset comme ça, des fois quand je suis dans la Bible, le danger c'est de se dire, et c'était le danger je pense qui guettait les Juifs, c'est de se dire « Ah, c'est bon, moi je suis dans ceux qui recherchent les bonnes choses, qui essaient de me comporter bien et qui va à l'église le dimanche et qui à peu près ma vie je fais rien de trop mauvais. Je suis dans cette catégorie là et en fait Paul, son argumentaire dans Romains, c'est en fait personne n'arrive à respecter la loi. Personne n'y arrive. On peut lire ces choses et se dire on va essayer de rechercher les bonnes choses, on va essayer de changer ce qu'il y a en nous, de changer la confiture en terrine de canard, et on peut pas le faire, c'est au-delà de nous. C'est difficile à accepter et à entendre. Et il le disait aux Juifs, il disait mais au final vous, quand on regarde vraiment la loi, quand on regarde vraiment les motivations derrière la loi, vous n'arrivez pas à la respecter. Donc vous aussi, vous êtes en crise. Un petit point avant notre conclusion pour ce matin, mais je Je pensais à l'idée de Dieu qui nous juge, et il est question du jugement de Dieu dans le début du chapitre 2, le fait que Dieu va nous juger. Et je pense que dans notre monde, on tend vers une absence de punition, vers une absence de responsabilité, où dans bien des situations, on détourne la responsabilité sur d'autres en disant « mais c'est pas de ma faute », etc., etc. Et même au niveau de toute la société et des jugements, ça tend vers ces choses-là. Mais quand on dit aux gens que Dieu doit juger les péchés, on a souvent une réaction des gens qui nous disent « mais oui, mais non, mais Dieu est amour, c'est quand même un peu... il va comprendre un peu pourquoi je me suis comporté de telle et telle manière, etc. » Et c'est un petit peu comme dire, mais imaginez que il y a un juge, vous allez au tribunal et pas vous, mais vous êtes là, vous écoutez un jugement, et le juge il a quelqu'un en face de lui qui est résolument coupable sans aucune excuse, sans aucun moyen de se dédouaner, et le juge il dit non mais ce matin c'est bon, je te pardonne, c'est pas grave, vas-y. Et alors nous qu'est-ce qu'on fait? Dans notre tête on va tout de suite à notre classement. Bon, si c'est des choses pas trop graves, ça va, c'est pas trop grave. Si c'est des mensonges, si c'est etc., etc., c'est bon, ça va, ce juge-là, il a le droit, c'est un petit truc. Si c'est un truc très grave, alors là, on va dire, non, mais quand même, le juge-là, il faut qu'on le vire, il n'est pas digne de faire son travail. Et en fait, là aussi, c'est révélateur. L'idée, c'est que les choses qui sont du péché doivent être punies, et Dieu doit punir. Et notre péché, encore une fois, il n'y a pas de classement, on est tous pécheurs, on a tous un problème, et Dieu doit juger chacun. Et il n'est pas question de gravité du péché, il est juste question de Dieu doit juger le péché parce que c'est dans sa nature. Et cette idée de comparaison, et par exemple avec les Juifs, le fait de se comparer au peuple autour, peut-être les chrétiens qui se comparent avec les gens, peut-être vous et moi, de nous comparer, de dire bah ça va, je suis juste, je check, j'ai ma balance en ordre, j'ai fait quelques bêtises cette semaine, mais je donnerai un peu plus le dimanche matin, ou je vais compenser, etc. Ce qui est aussi une tendance humaine. Le truc, alors ce matin c'est un peu lourd. C'est le fait que toute l'humanité est condamnée, on étudie ça, donc c'est pas forcément très gai toujours à entendre. Mais la chose géniale, on a vu au début du livre, il salue les gens à qui il écrit en leur disant grâce et paix. Et la belle chose dans la Bible, c'est que l'évangile, la bonne nouvelle, c'est que en croyant à Jésus, Nous pouvons être au bénéfice de la grâce. Et pourquoi la grâce est géniale? La personne qui a fondé le mouvement Calvary Chapel, Chuck Smith, a écrit un livre qui s'appelle « La grâce, ça change tout ». Et pourquoi ça change tout? Parce que ça restaure ce que je pense qu'on a perdu à la chute de l'homme, à savoir cette relation, ce sentiment de valeur, parce que nous sommes acceptés par Dieu. Et à partir du moment où on peut recevoir la grâce de Dieu et savoir que Dieu nous accepte, on peut être au bénéfice de la paix qui vient avec, de savoir j'ai plus besoin d'être là à dire « Ah, est-ce que j'ai... » Les Juifs, ils étaient là à compter, si vous avez soulevé 500 grammes le dimanche matin, ça va, mais 501 grammes, vous êtes dans le péché. Vraiment, hein, c'était des trucs épuisants, quoi. Tu passais ta vie, il fallait que tu aies une balance tout le temps dans la poche, il fallait que tu pouvais rien faire sans... Et parfois, si nous ne comprenons pas ou nous n'acceptons pas la grâce de Dieu, en tant que chrétien, parfois on tombe dans ça, de retomber dans le « Ah, mais j'ai péché un petit peu, ah Dieu, ah pardon Dieu, ah. » On est en pénitence toute la journée. Et Dieu ne veut pas ça pour nous, Dieu veut que nous comprenions sa grâce et que nous puissions vivre pleinement en sachant qu'il nous a acceptés. Et ça doit tout changer dans nos vies. Nous devons avoir une paix et une joie qui viennent de ça, où on peut savoir que quels que soient les péchés, il nous demande, en réponse à sa grâce et ce beau cadeau d'essayer de faire de notre mieux et de ne pas pécher, mais il nous dit, je vous accepte. Quelles que soient les choses avec lesquelles vous luttez dans vos vies ce matin, les péchés que vous commettez de manière habituelle, les choses de votre passé éventuellement que vous avez du mal à accepter ou à mettre sous silence, Dieu vous aime et vous a accepté et c'est fini. Ces choses-là sont effacées et vous pouvez avancer. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que nous pouvons venir à toi, parce que le voile a été déchiré et que, quels que soient nos poids, nos fardeaux, Seigneur, nous pouvons venir, entre guillemets, à ta croix et les déposer, Seigneur, et prendre ton fardeau qui est léger. Tu nous aimes, tu nous acceptes, tu nous considères même comme un trésor, Seigneur. Tu nous considères comme ton héritage, ton trésor, Seigneur. Et si ce matin, il y en a parmi nous qui n'ont pas accepté ta grâce, Seigneur, qui sont toujours en lutte, qui sont toujours là avec une culpabilité, des poids sur le cœur, Seigneur, des choses qui pèsent, Seigneur, aide-les à accepter ta grâce ce matin. Aide-nous à accepter ta grâce ce matin et tous les jours de notre vie, Seigneur. À accepter ton amour et à accepter ce don de Jésus, Seigneur. Ce salut par la foi, Seigneur, qui est si simple et si bon et si riche, Seigneur. Et nous voulons avoir ta paix, Seigneur, et ta joie et tout le fruit de ton esprit dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons aussi que ces choses changent tout dans nos vies et que le monde autour de nous voie aussi et soit attiré à toi, Seigneur. Que ce ne soit pas comme ces Juifs qui étaient accusés, Seigneur, de détourner les gens de toi. Seigneur, change-nous, Seigneur, par ta grâce, par ton amour. Remplis-nous de ton esprit et que le monde autour de nous soit attiré à toi, Seigneur. Merci pour ce texte ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ce don immérité, Seigneur, que nous pouvons simplement accepter maintenant. Sois glorifié. En ton nom, nous prions. Amen.